Le débat du jour. Guillaume Ouattara.
Merci beaucoup à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Il est 19h30 ici à Paris et ce soir, on se demande s'il y a un problème français avec les retraites. Alors, est-ce qu'il est plus facile d'élire un pape que de s'accorder sur l'âge de départ à la retraite en France? Chaque jeudi, le conclave des retraites se réunit, ou plutôt se vide. FO, la CGT, l'UDP ont quitté la table, la CFTC boude, ce sont des syndicats. Il n'en reste que trois irréductibles, la CFDT, le MEDEF et la CPME. Et pendant que les chaises se vident, le gouvernement attend une fumée blanche ou au moins 6,5 milliards d'euros pour éviter le déraillement. En France, chaque réforme des retraites vire à la crise nationale. Depuis 1993, on en dénombre pas moins de 7 de réformes qui se sont succédées. Alors pourquoi ça coince notre culture, notre rapport au travail ou notre refus de voir le monde changer? C'est le débat ce soir sur RFI.
RFI.
Et on en parle avec nos invités. D'abord vous, Henri Sterdignac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, cofondateur de l'OFCE et du groupe des économistes atterrés. Nous sommes à distance avec Monica Kesser. Bonsoir.
Bonsoir.
Chef de la division des politiques sociales à l'OCDE, experte en retraite. Et puis nous sommes également avec Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour.
Bonjour.
Économiste et fondateur du Cercle des économistes. Alors, on le disait, la retraite, elle semble cristalliser en France des tensions qui dépassent largement les enjeux techniques ou budgétaires. Je vais commencer avec vous, Henri Sterdignac. On en est où aujourd'hui, si on se fait un petit point rapide? Quand est-ce qu'on part à la retraite? Combien de temps on cotise? Comment ça marche, notre retraite?
D'abord, il faut dire qu'on a un système de retraite qui est un des plus généreux du monde. On a, jusqu'à présent, on avait la retraite à 62 ans. On va passer à 64 ans, mais beaucoup de pays passent à 67 ans. Et on a des retraités qui ont à peu près le même niveau de vie que les actifs, alors que dans beaucoup de pays, les retraités ont, disons, 20% de niveau de vie inférieur à celui des actifs. C'est payé naturellement par des taux de cotisation de l'ordre de 28% que les actifs doivent supporter. Et comme nous vieillissons, le rapport démographique actif, retraité sur actif se dégrade et donc, tout à fait naturellement, de temps en temps, il faut modifier les paramètres du système. La particularité de la France, c'est que cette modification n'est pas automatique, mais qu'elle s'effectue périodiquement dans des conflits récurrents.
Des conflits récurrents, cette réforme depuis les années 90. Monica Kesser, on a 42 régimes différents en France. C'est assez compliqué quand même.
Oui, c'est un système un peu plus compliqué que dans beaucoup d'autres pays, mais ce n'est pas complètement inhabituel non plus d'avoir les différents systèmes pour différentes catégories de l'employé, pour les fonctionnaires, pour les autres, et aussi des systèmes qui sont organisés par branches professionnelles. Donc, je pense que ce n'est pas forcément ça le problème, mais c'est peut-être qu'en France, il y a beaucoup de débats, beaucoup de symboles aussi autour de l'âge de retraite, plus peut-être en France qu'ailleurs, parce qu'il y avait la réforme Mitterrand qui a baissé l'âge de retraite à 60 ans, qui est considéré un très très grand acquis social jusqu'à présent, toujours pour beaucoup de gens. Et donc c'est peut-être beaucoup comme ça, pour ça que beaucoup de débats se cristallisent autour de l'âge de retraite, qui est peut-être plus contesté que dans beaucoup d'autres pays.
Ce qu'il y a d'intéressant, Monica Kesser, c'est qu'en France, on perçoit un petit peu la retraite comme un droit différé, une espèce de réconfort de l'effort, presque un sanctuaire.
Oui, c'est ça. Et ce qui me frappe toujours, ou qui frappe aussi d'autres observateurs étrangers, qui nous demandent beaucoup à l'OCDE, ils ne comprennent pas très bien pourquoi les jeunes sont contre les réformes de retraite. Parce qu'ils disent, si on peut économiser de l'argent, ça va coûter moins cher aux jeunes qui ont quand même un poids assez conséquent à porter dans le futur, parce que ce n'est pas seulement les retraites, c'est la santé, c'est la dépendance, beaucoup d'autres besoins qui doivent être dans un système de répartition, doivent être financés par les jeunes. Et donc, on a souvent eu la question, mais pourquoi est-ce que les jeunes sont dans la rue pour protester parce que c'est pour eux qu'on va faire des réformes qui leur coûteront moins cher dans le futur. Et ça, c'est assez particulier, je pense, en France. Il y a moins de présence de ce débat sur l'équité intergénérationnelle et le coût, qui paie combien, pourquoi, que dans beaucoup d'autres pays. Et c'est pour ça que je pense aussi, par exemple, dans les pays nordiques, on a commencé assez tôt, à la fin des années 90, déjà à introduire ce que disait Henri Sterdignac, ce qui n'existe pas en France, des mécanismes automatiques où on dit si l'espérance de vie augmentant, ça veut dire que les jeunes générations vont avoir des retraites plus longues parce qu'ils vivront plus longtemps, ils doivent aussi travailler un peu plus de temps pour équilibrer ce système. Et donc il y a beaucoup de pays maintenant dans l'OCDE qui ont introduit ces mécanismes automatiques, ce qui évite notamment chaque fois de retourner au Parlement, de rouvrir tout ce débat, mais ça passe un peu plus naturellement, si vous voulez.
Et alors nous, pourquoi, Henri Sterdignac, on n'a pas ces mécanismes automatiques? C'est parce qu'on aime l'art du débat et de la palabre à l'Assemblée, ou c'est que c'est un enjeu social qui dépasse? Est-ce qu'on a tenté d'avoir ces mécanismes automatiques?
Disons qu'on a à faire un arbitrage social entre durée de la retraite, âge de départ à la retraite, taux de cotisation et niveau des pensions, et que ce débat, on l'ouvre pas de manière ouverte, si je peux dire. On a le gouvernement et le patronat qui ont décidé une fois pour toutes qu'on touchait pas au niveau des cotisations. Donc, on est obligé de gérer par le report de l'âge de la retraite et la baisse des pensions, qui n'est peut-être pas le choix que les actifs auraient préféré. Et par ailleurs, les syndicats ne disent pas clairement aux actifs, vous savez, passer de 64 à 62, ça coûterait... grosso modo, 2 points de cotisation en plus. Est-ce que vous êtes prêt à payer ces 2 points de cotisation? Et c'est ça le débat qui n'est pas vraiment ouvert publiquement.
Jean-Hervé Lorenzi, dans les années 50, on comptait 4 actifs pour un retraité qui cotisait. Aujourd'hui, on a divisé par 2, un peu plus. On est à 1,8 actifs pour un retraité. Ça va dans le mur, ce système?
Oui, enfin, je veux dire, je reviens d'abord à votre question sur laquelle j'ai, au fond, une position assez ferme. Je suis pas persuadé que la France ait un regard très particulier, sauf sur le problème de l'âge légal. Alors, comme vous le savez, ça fait partie de l'histoire sociale d'un pays, l'histoire de la production sociale. Mais à part ça, je suis toujours frappé des chiffres un peu fantasmatiques qui sont sortis sur l'âge de départ à la retraite de nos camarades allemands, qui est en réalité 6 mois dans le privé, 6 mois au-delà de ce que nous en France. Donc on a cette espèce de discours aussi sur une sorte de dramatisation spécifique française. Dans tous les pays du monde, les retraités sont les gens qui dépassent les 60, 65 ans souhaitent partir à la retraite. Et ils expriment ce désir-là d'une manière ou d'une autre. Ils le font, en France, avec des spécificités qui sont liées à notre débat politique général et pas particulièrement à l'affaire des retraites. Deuxième sujet sur, comme j'ai bien vécu la période de 81, donc l'arrivée des 60 ans, c'est vrai qu'on a donné à ce chiffre de 60 ans une espèce de statut quasiment religieux, je veux dire très important. Et donc, l'erreur d'aujourd'hui, c'est de vouloir ne traiter le problème qu'à travers le problème de l'âge de départ à la retraite. Comme vous le savez, nous avons 2 critères, les annuités et l'âge de départ à la retraite. J'ai regardé de très près les dispositifs allemands. En réalité, les annuités sont très importantes. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Maintenant, on va évidemment vers une énorme difficulté. La société française, comme les sociétés européennes, dans leur intégralité, n'ont pas du tout perçu l'importance du vieillissement. Nous avons, par exemple, chez nous, c'est une chaire de travail, une chaire d'économiste, nous avons calculé que le vieillissement de la population française, qui n'est pas du tout le plus important dans tous les pays européens, représenterait, alors il faut reprendre ça avec beaucoup de précaution, mais de l'ordre de 50 milliards de plus par an, J'y rajoute évidemment un problème absolument majeur qui est celui de la dépendance. Et donc tout le vieillissement, c'est à la fois la retraite et la dépendance, ou disons la prise en charge des problèmes spécifiques de santé des plus de 60 ans. Donc on ne va pas dans le mur, on va évidemment poser la question. Je pense qu'il faut la poser de manière plus intelligente qu'on ne le fait aujourd'hui. Je pense que l'idée de ce qui avait été soutenu d'ailleurs par la CFDT, vous avez un peu tendance à considérer que la plupart des syndicats sont partis. Non, dans le conclave et à l'époque du régime par points, la CFDT, qui à ma connaissance dans le secteur privé est le premier syndicat français, était favorable.
Il n'en reste que trois syndicats aussi dans le conclave, hein, la CFDT, le MEDEF et la CPME.
Il y a la CFDT, ce n'est pas totalement négligeable dans notre pays.
Bien sûr, voilà. Mais tous les autres sont partis avec perte et fracas, parce que justement, François Bayrou a dit on ne reviendra pas sur l'âge de départ à la retraite, on ne reviendra pas sur les 64 ans, et c'était le symbole qui était mis en avant.
Oui, mais d'où l'idée que je fais partie de ceux qui poussent à un niveau modeste, mais qui poussent les positions diverses et variées à aller sur un débat qui est plutôt tourné vers les annuités, parce que c'est par les annuités, évidemment pas l'augmentation des annuités, mais qui permet de traiter de manière beaucoup plus intelligente à la fois l'âge d'arriver sur le marché du travail, à la fois les problèmes spécifiques de complexité de certains travaux, etc. C'est comme ça qu'on fera. Cette histoire d'âge légal 62 ou 64 ans est évidemment conduit les uns les autres à beaucoup d'inintelligence dans la manière de poser ce problème.
Les annuités ne sont pas une solution. Il n'y a pas de solution miracle, parce que les annuités, ça pose...
C'est quoi les annuités pour
les annuités,
ceux qui nous
c'est-à-dire qu'on dit aux gens, au lieu de partir à 64 ans, vous avez le droit de partir quand vous avez fait 42, 44 années de carrière. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on se trouve devant la situation des personnes, des femmes en particulier, qui ont eu des carrières hachées et qui n'ont pas leurs annuités. Et donc, on est obligé d'avoir un système mixte avec d'un côté les annuités et la durée du travail. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Les annuités ne sont pas une solution miracle, mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, nous vieillissons. Il y a, disons, une solution qui n'est pas très jolie, mais qui est pragmatique. Ça consiste à dire, petit à petit, on va reporter l'âge de départ à la retraite, on va réduire un peu le niveau relatif des pensions, et pour que ça marche, il faudrait que les entreprises soient un peu motivées à faire que, effectivement, les gens restent dans les entreprises jusqu'à l'âge où ils ont le taux plein, ce qui suppose que les entreprises repensent la carrière des salariés pour qu'effectivement, on ne les jette pas trop tôt au chômage.
Jean-Hervé Lorenzi, vous vouliez répondre sur cette question des annuités.
Oui, je voulais rajouter auprès d'Henri Sardinia qu'aucune réforme intelligente, ce qui est notre caractéristique à nous tous, des réformes ne suppose pas de traiter évidemment le sujet des femmes qui ont des carrières où le nombre d'annuités n'est pas suffisant. Je te précise que par ailleurs, ils ne retiennent leur intégralité qu'à 67 ans. Donc pour le moment, ça n'est pas résolu. Et donc, il y a plusieurs solutions, on n'a pas le temps de les développer, mais évidemment, toute solution qui met en avant les annuités suppose évidemment de traiter le problème d'une manière générale des gens des retraites extrêmement faibles qui sont liées au fait que des femmes essentiellement ont eu des carrières insuffisantes en annuité, mais c'est vrai aussi en nombre en 62 ans ou 64 ans, et deuxième aspect qui ont eu par ailleurs des rémunérations extrêmement faibles. Donc c'est un ensemble, une réforme des retraites. La réforme des retraites, deuxième réforme des retraites Macron, n'est pas une bonne réforme. Elle n'a pas été bien pensée. Mais on peut penser intelligemment sur le sujet. Voilà.
Monica Kayser, vous êtes dans quel camp? Vous êtes de ceux qui disent que regarder l'âge de départ à la retraite, ça ne sert à rien. Ce n'est pas intelligent, comme le disait à l'instant Jean-Hervé Lorenzi, qu'il faut penser à annuité, ou l'inverse?
Il faut toujours penser les deux, parce qu'en fait, même si on a un système contributif comme le système français, où on calcule une prestation, par rapport à, aux années cotisées de chacun. Il y a quand même d'autres prestations qui sont très importantes aussi, comme le minimum vieillesse et d'autres protections pour les retraités pauvres, notamment, où il faut mettre un âge. Il faut décider à partir de quel âge est-ce que quelqu'un a droit à ça. Donc, et il y a aussi, comme incitation de travailler plus longtemps, il y a aussi un âge à partir duquel on commence à appliquer des surcotes, par exemple, pour inciter de travailler plus longtemps. Et donc, on donne plus que pour les autres années. Ou des décotes, quand on parle plus tôt. Donc, c'est très difficile d'imaginer un système de retraite qui est basé seulement sur les annuités. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui fait ça exclusivement sur les annuités. Il y a toujours les deux, parce qu'il y a quand même des âges à placer, si vous voulez, pour décider à partir de quel moment il y a d'autres prestations qui sont disponibles pour les retraités. Donc, je pense que, comme disait Henri Sterdignac avant, il y a toujours les trois paramètres clés. Il y a le niveau des retraites, l'âge de départ et les cotisations. Et il faut équilibrer les trois. Et le conseil d'orientation de retraite appelle ça un abacus, qui montre très bien que si on bouge un de ces paramètres, les autres bougent avec. Hein. On peut pas tout avoir au même temps. Donc chaque décision de paramètre a des conséquences sur les autres. Paramètres aussi.
Jean-Hervé Lorenzi, on avance dans le débat. Alors vous disiez, pardon, je vous relance, parce que vous disiez il faut penser à annuité, mais ce qu'on est en train d'entendre, c'est qu'il faut penser niveau, âge, cotisation et annuité. Donc c'est un triptyque.
Je rappelle juste, premièrement, je ne suis pas à l'OCDE, mais si ma connaissance n'est pas totalement imprécise, la Suède n'a pas d'âge légal. Et tous les régimes par points, moi j'étais favorable au régime par points, qui est un régime en fait qui ressemble beaucoup à celui des annuités, il n'y avait de fait plus d'âge légal. Je suis évidemment pour qu'on repousse l'âge de départ à la retraite, c'est évident. Les chiffres qu'ont donné Henri Sterdignac au début et vous-même s'imposent. Mais de là, il faut trouver une solution qui accroche. Il se trouve que Mme Touraine avait habilement...
Oui, Monique Akessa, répondez.
Oui, juste sur la Suède, il faut que je clarifie, la Suède a un âge de retraite qui vient d'être remonté de 62 à 64 ans. Ah. Et en plus, ils ont une retraite garantie qui, dans le passé, était disponible qu'à 65 ans. C'est ce que je disais, pour les gens qui ont besoin d'une prestation sociale en plus, parce que les retraites ne sont pas suffisantes. Donc, ce n'est pas du tout le cas qu'on puisse partir juste avec des annuités à n'importe quel âge en Suède non plus.
Mais bien sûr que... Attendez, qu'un régime d'annuité, quand Mme Touraine dit qu'il faut passer à 43 annuités ou 43 annuités, évidemment, c'est un chiffre minimum avec des cotes et des surcotes qu'il peut y avoir dans tous les cas, mais c'est évidemment une contrainte aussi lourde que celle des 62 ou 64 ans. Simplement, il se trouve que nous sommes dans un pays où, je n'y peux rien, on ne va pas changer tous les Français, que l'histoire de l'âge légal est quelque chose qui prend un caractère très significatif.
La réforme Touraine... Pourquoi ça prend ce caractère spécifique en France ?
Parce que vous revenez à 81 et vous revenez à 45. Vous revenez d'abord à ce qui a été décidé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale sur les retraites et ce que 81, l'arrivée de Mitterrand et les 60 ans, se dire « mais c'est comme ça, mais moi je ne suis pas… » On peut trouver des formules. Il se trouve que j'étais favorable au régime par points. Le régime par points, c'est un régime qui, de fait, ne prend pas en compte l'âge légal. Mais c'est tout. C'est un problème de nature plus politique qu'économique. Évidemment, il faudra travailler plus longtemps. Ça n'est pas la question.
Non, mais la question aussi, c'est que le régime par points n'est pas un régime équitable, contrairement à ce que disent les gens qui le proposent.
C'est quoi un régime par points ?
Un régime par points, c'est vous accumulez des points au cours de votre carrière, et au moment où vous prenez votre retraite, on calcule votre retraite à partir des points que vous avez accumulés et de l'espérance de vie moyenne des gens qui sont nés la même année que vous. Le problème, bien sûr...
On boursicote sur l'âge de départ, quoi, façon.
On a accumulé et on dépense au moment de sa retraite. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas dans la même situation vis-à-vis de sa capacité à rester en emploi selon le métier qu'on a eu. Tout le monde n'a pas la même espérance de vie selon qu'on a été cadre ou selon qu'on a été ouvrier. Donc, ces inégalités ne sont pas résolues a priori par le système par points. Je veux dire que selon moi, il n'y a pas de solution miracle. Il faut, quel que soit le système, il faut des tas d'ajustements pour tenir compte des femmes, des carrières hachées, des emplois pénibles. Et puis, il faut se dire aussi que les gens qui peuvent travailler jusqu'à 70 ans, c'est souvent des gens qui, en fait, ont des espérances de vie très longues, des salaires élevés et il ne faut pas trop non plus leur donner une retraite trop forte par rapport aux gens qui sont obligés de partir plus tôt.
Le débat du jour, Guillaume Ouattara.
17h50 en temps universel, 19h50 à Paris. Y a-t-il un problème français avec les retraites? C'est notre débat du soir. Autour de cette table, Henri Sterdignac, économiste, cofondateur de l'OFCE et du groupe des économistes atterrés. À distance avec nous, Monica Kesser, chef de la division des politiques sociales à l'OCDE, et Jean-Hervé Lorenzi, économiste fondateur du Cercle des économistes. Alors, y a-t-il un problème français? En tout cas, on le voit dans ce débat. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de vigueur sur cette question des retraites. Monica Kesser, au fond, est-ce que c'est tant le sujet de la retraite, du départ et du travail, ou est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose qui est sous-tendu, qui est la question du projet de société dans lequel on veut évoluer, du modèle qu'on veut pour nos seniors, et peut-être de cette idée que le travail ne fait pas tout?
Oui, je pense que c'est effectivement quelque chose pour lequel le reste du monde admire la France beaucoup, parce que la France a la réputation d'avoir un grand savoir-vivre, d'avoir un bon équilibre. Le travail ne doit pas être toute la vie. On ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre pendant le travail, la période active déjà, mais surtout pendant la retraite. Mais je pense aussi qu'il y a un sujet qui a été déjà discuté un peu par Henri Sterdignac. Le problème, c'est un peu l'emploi senior en France, qui est beaucoup plus faible. Et je pense qu'il y a aussi, par rapport à d'autres pays, souvent un mauvais traitement dans les entreprises des seniors, qui sont plus souvent soit mises au placard quand on a l'impression qu'ils ne sont plus assez productifs, ou on veut les faire partir, ou on a les moyens avec d'autres prestations de ne plus investir dans les employés seniors. Et seniors, ça commence souvent très, très tôt déjà.
C'est quel âge,
55 ans.
Oui.
Ça dépend de la définition. Vous demandez à employé senior aux États-Unis, c'est beaucoup plus tard. Au Japon, c'est encore beaucoup plus tard. C'est une attitude très différente par rapport à l'emploi, en partie parce qu'il y a obligation, parce que justement le système de retraite n'est pas aussi généreux qu'en France, mais en partie aussi parce que peut-être la retraite n'a pas la même valeur sociale. On a peut-être, parfois, on entend souvent aussi dans d'autres pays qu'il y a une valeur sociale d'aller dans une entreprise, de voir ses collaborateurs ou faire autre chose. Et je pense que les retraités français, ils ne sont pas seuls ou isolés ou inactifs après. Ils s'engagent beaucoup dans des associations, ils s'occupent de leurs petits-enfants, ils font plein de choses. Mais le seul problème, c'est que ce n'est pas payé. Et donc, ça ne fait pas des cotisations, des actifs pour le système de retraite. Donc, je pense qu'il faut aussi travailler en France sur le sujet de l'emploi senior. Et il faut commencer, notamment pour ceux qui ont des travaux pénibles, des emplois pénibles, qui abîment leur santé, de les reconvertir beaucoup plus tôt. On ne peut pas attendre 55, 58, 60 ans pour ensuite dire finalement, maintenant, ça ne va pas parce que c'est déjà, la santé est déjà très abîmée. Donc, il faut trouver des solutions tout au long de la vie et faire un management très intelligent dans les entreprises pour gérer la situation de différents groupes et aussi les jeunes. Hein. Les gens de moyen âge et de seniors.
En fait, on ne sait plus employer personne. Quoi. Les jeunes n'ont pas assez d'expérience et les seniors en ont trop.
Le problème de la France, c'est que les retraités sont très heureux. Ils ont un niveau de vie relativement satisfaisant. Ils ont des tas d'activités. Et au contraire, les travailleurs seniors sont malheureux parce que il y a un problème en France, c'est les travailleurs français qui se plaignent le plus de leurs conditions de travail. Il y a une hiérarchie en France qui est plus pesante qu'elle ne peut l'être dans les pays scandinaves. Tout ça fait que les gens qui ont 60 ans, 62 ans, ben, ils veulent absolument partir à la retraite. Enfin, une grande masse, ils sont malheureux dans leur boulot et qu'on leur dit « vous devez travailler 2 années de plus », pour eux, c'est la catastrophe parce qu'ils n'ont pas ce bonheur que des retraites. On leur vole 2 années heureuses et... Une des solutions, bien sûr, ça consiste à se penser comment on fait pour que les gens soient heureux au travail. C'est l'exemple finlandais où, effectivement, on investit pour que les gens soient heureux au travail et soient heureux au travail, même s'ils ont 50 ans ou 60 ans.
Jean-Hervé Lorenzi, vous voulez voler des années de bonheur à nos seniors ? Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que vous nous entendez ? J'ai l'impression qu'il ne nous entend pas, Jean-Hervé Lorenzi, parce qu'il était pour cette idée de l'annuité, donc de travailler plus. Tiens, c'est le Danemark qui a décidé il y a quelques jours de passer à une retraite à 70 ans, c'est ça, Monica Kesser ? 70 ans, ça serait un drame absolu pour la France.
Oui, oui. Donc, mais on va voir à quel point ça peut vraiment se réaliser au Danemark. Mais le Danemark a même un lien automatique de l'espérance de vie et l'âge de retraite. Et donc, si on regarde les projections d'espérance de vie pour le Danemark, vous allez même arriver jusqu'à 74 ans. Mais moi, je pense que c'est peu probable qu'ils vont vraiment travailler jusqu'à 74 ans. Et il y aura d'autres prestations. Et d'ailleurs, il y a des retraites d'incapacité et autres qui ouvrent des possibilités quand même de se retirer plus tôt. Mais c'est vrai que c'est assez choquant pour beaucoup de pays de voir 70 ans comme âge légal de retraite.
Ça nous arrivera un jour en France, Henri Sterdyniak, 70 ans ?
Disons que les 67 ans que nous avons du taux plein aujourd'hui seront peut-être un jour 70 ans, mais ce qui est très important, l'âge de la retraite, 64 ans, ben ça sera sans doute 65 ans en 2035, il ne faut pas le dire. Mais je veux dire, ce qui est très important, c'est d'avoir des mécanismes qui permettent à ce qu'il n'y a personne qui soit laissé sans solution. Et donc, même si on reporte l'âge de la retraite, il faut absolument que les gens qui ne peuvent pas être retrouvés, qu'ils ont été jetés de leur entreprise, qui ne peuvent pas retrouver un boulot, aient droit à une prestation satisfaisante, que ce soit la retraite immédiatement au taux plein pour les seniors de longue durée ou proposer des emplois d'insertion. Il faut éviter qu'il y ait des gens, comme ça arrive encore aujourd'hui, qui soient coincés entre... Les entreprises n'en veulent plus et ils n'ont pas droit à la retraite.
Merci Henri Sterdyniak, économiste cofondateur de l'OSCE et du groupe des économistes atterrés. Merci d'avoir été avec nous. Également Monica Kesser, chef de la division des politiques sociales à l'OCDE, et Jean-Hervé Lorenzi, économiste fondateur du Cercle des économistes. Merci beaucoup à Florence Pons pour la préparation et la production de ce débat. Et à la réalisation ce soir, c'était Anatole Troadec. Et Rignac, à 19h58 à Paris, dans un peu plus d'une minute, le grand journal du soir de Charlotte de Rouen. Le dossier reviendra sur l'élection du Mauritanien Sidi Oulta à la tête de la Banque africaine de développement. Et dans une demi-heure, Afrique Soir, bonsoir Sophie Pouzrat.
Bonsoir Guillaume. Eh bien au sommaire, on parlera nous aussi du 9e président de la Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Oulta, qui a été choisi effectivement pour prendre les rênes de la Banque africaine de développement pour 5 ans. On reviendra sur les grandes lignes de son programme et sur son parcours notamment. À la une également, elle était annoncée depuis plusieurs jours, c'est à présent confirmé, Joseph Kabila a mis fin aux spéculations sur sa présence en RDC, à Goma. Il s'est présenté devant les journalistes en marge de ses consultations entamées dans l'est du pays. Il a notamment reçu plusieurs représentants religieux. Et puis on reviendra aussi sur la mort de l'écrivain Ngugi wa Thiong'o, l'une des plus belles plumes du Kenya.
Et bien voilà, ça sera à suivre donc dans une demi-heure dans Afrique Soir avec vous, Sophie Pouzrat. Vous restez avec nous bien sûr sur RFI, toute l'actualité. Vous la retrouvez sur notre site internet rfi.fr pour suivre en temps réel. Et puis bien sûr, le débat que vous venez d'entendre, il sera à retrouver très vite en podcast sur le site de RFI et sur l'application